Nicolas Véron, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes économiste, membre de l'Institut Bruegel et du Peterson Institute for International Economics à Washington. On va parler avec vous de conjoncture. Hein. Vous avez assisté à un certain nombre de tables rondes à Paris Europlace, au Forum Paris Europlace 2012. Pour vous, est-ce que dans la zone euro, ce qu'on vit au jour le jour dans la zone euro, l'économie, est-ce qu'elle peut s'améliorer dans les prochains mois ou est-ce qu'on est, compte tenu de tout ce qui a été dit, tout ce qui a été annoncé, dans une crise profonde?
Je crois qu'on est dans une crise profonde dans tous les cas. Les marchés ont un consensus très mesuré sur les anticipations de conjoncture, hein, quels que soient les discours officiels, qui eux-mêmes d'ailleurs deviennent plus réalistes. La question, c'est est-ce qu'on aura un événement véritablement catastrophique dans la zone euro ou pas? Et de ce point de vue-là, je serais plutôt dans le camp des optimistes, ou en tout cas de ceux qui pensent qu'une dislocation majeure sur dans la zone euro et dans les marchés peut encore être évitée. Et de ce point de vue-là, le sommet de la semaine dernière est plutôt une bonne nouvelle. Je crois qu'il y a eu des signaux très positifs qui restent évidemment à concrétiser, mais des promesses qui ont été faites au marché qui sont importantes. Donc de ce point de vue-là, je crois que on peut rester sur une ligne de crête d'éviter les scénarios catastrophes, mais il n'y a pas vraiment de scénario de reprise très dynamique, d'expansion économique forte dans les mois et probablement les 1 ou 2 ans qui viennent.
Alors, en même temps, on a l'impression, ça c'est vrai que c'est peut-être le discours des investisseurs, que les politiques, donc au niveau européen, finalement gagnent du temps à chaque, on pourrait dire à chaque sommet. Alors, il y a des sommets qui ont été mal reçus par les marchés, mais gagnent un peu de temps en mettant en place un certain nombre de mesures et que les problèmes de fond ne sont pas réglés dans la zone euro.
Ben, je crois que ce qui a été nouveau dans le sommet de la semaine dernière, c'est que pour une fois, ceux qui ont décidé de gagner du temps n'étaient pas le conseil exécutif de la BCE, mais c'était les politiques eux-mêmes, les élus, les gens qui ont l'argent du contribuable à leur disposition. Et je crois que ça, c'est un signal important parce que, effectivement, la BCE ne peut pas à elle seule régler la crise. Elle peut mettre de plus en plus de liquidités dans le système et elle l'a fait à différentes reprises, mais elle ne peut pas tailler dans le vif et mettre en place, notamment en ce qui concerne le système bancaire, les mesures de restructuration qui s'imposent et évidemment au niveau du front plus budgétaire, de mettre en place les mécanismes de solidarité qui nous permettront de sortir de l'ornière et qui sont indispensables. Donc de ce point de vue-là, le transfert de responsabilité qui a été tout le discours de la BCE au cours, pas seulement des derniers mois, mais presque, on a envie de dire, des dernières années, de dire les gouvernements doivent prendre leurs responsabilités. Encore une fois, il ne s'agit encore que d'une promesse. Cette promesse, on verra si elle est tenue, mais je crois qu'il y a eu un glissement, un transfert qui est important, qui est positif.
Alors, en même temps, on voit bien on va dire, les difficultés qui sont là pour les différents gouvernements, à savoir croissance, croissance et rigueur. Ce sont deux mots qui sont incompatibles. On voit des annonces de nouvelles hausses d'impôts, de nouvelles taxes. On a vu déjà les effets, d'ailleurs, dans certaines économies. On voit bien que bien entendu, ne relance pas la croissance. Donc, comment on arrive à gérer ça en Europe? Je dirais les contraintes budgétaires du moment et puis effectivement essayer de relancer la machine.
Je ne crois pas qu'il faille être obsédé outre mesure par l'aspect budgétaire d'un point de vue de l'économie en général. Le problème numéro un de l'Europe et particulièrement de la zone euro aujourd'hui, c'est la confiance. C'est pas l'injection de stimulus budgétaire dans l'économie. Cette confiance, elle est à deux niveaux. Elle est au niveau des États souverains, particulièrement évidemment la Grèce, mais en filigrane derrière la Grèce, les effets dominos si la Grèce doit quitter la zone euro. Donc pourquoi est-ce que je vais investir dans un pays dont la monnaie risque d'être massivement dépréciée s'il y a un risque de sortie de la zone euro, numéro un. Numéro deux, évidemment, le système bancaire. Les banques ne se font plus confiance entre elles. Si les autres banques ne font pas confiance à la banque X ou Y, pourquoi est-ce que moi je lui ferais confiance? Et du coup, on a un problème général de crédit parce que l'Europe, malheureusement, en ce moment, ça a pu être un atout à d'autres périodes, est extrêmement dépendant du crédit bancaire. Il y a peu de canaux de crédit non bancaire aujourd'hui dans l'économie de la zone euro et d'ailleurs de l'Europe dans son ensemble. Donc, ces deux éléments de confiance, le système bancaire, les États souverains, c'est vraiment ça qui est clé pour la croissance, c'est ça qui n'a pas été réglé. Et c'est ça qui est le front principal si on veut pouvoir débloquer un potentiel de croissance en Europe à partir des niveaux très bas aujourd'hui.
Alors, on a beaucoup parlé de convergence hein, des économies européennes au cours des dernières années et des derniers mois. Convergence, ça veut dire aussi une espèce de fédération. On sait que c'est difficile, qu'il y a des enjeux politiques. On a l'impression qu'on n'avance pas tellement sur ce plan-là, effectivement, pour qu'il y ait beaucoup plus de coordination des politiques économiques.
Ah ben, moi, je dirais qu'on a beaucoup avancé au cours des derniers mois, puisque pour la première fois depuis le début de la crise, les enjeux sont posés sur la table, à mon avis, d'une manière qui correspond à la réalité et qui correspond aussi à la perception des investisseurs. Jusqu'à présent, on avait une discussion qui était braquée sur les questions budgétaires. L'Allemagne disant les États doivent remettre de l'ordre dans leurs finances publiques, les autres disant on ne peut pas le faire tout seul, on a besoin de solidarité, tout ça est important, mais ça n'est qu'une partie du sujet. Aujourd'hui, on a un discours et un débat public beaucoup plus équilibré dans lequel on dit union budgétaire, union bancaire, union politique, qui correspond aux trois éléments, crise budgétaire, crise bancaire, crise politique, crise de nos institutions. Je crois que cette manière de cadrer le débat est beaucoup plus constructive et d'ores et déjà une étape vers une solution de la crise qui ne viendra pas vite, qui ne viendra pas en une seule étape évidemment, mais je crois que notamment en matière de politique du secteur bancaire, ce qui a été décidé ou en tout cas annoncé la semaine dernière est important. Et sur le plan des institutions, du contrôle démocratique, de la légitimité des décisions qui sont prises et donc de la capacité à prendre des décisions, puisque finalement, ce qui nous a posé problème au cours des 2-3 dernières années, c'est l'incapacité collective des Européens et de la zone euro à prendre des décisions. Je crois qu'on est encore très loin du compte, mais on a maintenant une vision plus réaliste du sujet, plus honnête, il faut l'espérer, et qui permet, encore une fois, d'être une première étape vers l'obtention d'une solution.
Oui, c'est vrai que parfois, vu d'Asie, notamment, certains investisseurs ne comprennent pas comment fonctionne cette zone euro et ça les empêche parfois d'investir.
Mais le problème n'est pas seulement la complexité, puisque la complexité, elle existe partout. Vous savez, tout le monde sait bien que le gouvernement chinois, le gouvernement américain, le gouvernement japonais sont incroyablement complexes. Donc le problème n'est pas la complexité, le problème, c'est la paralysie. C'est le fait que les Européens ont donné l'impression, si vous voulez, il y avait une confiance implicite qui était là avant, qui était de dire, bon, bah, s'il y a une crise, les Européens, on ne comprend pas leur système, mais ils arriveront à trouver des solutions. Or, ce qui s'est passé en 2010, 2011, début 2012, c'est que les investisseurs ont eu de plus en plus l'impression que non, ben, en fait, le système n'était pas capable de donner, de permettre la prise de décision, de permettre à des décisions d'émerger de ce processus bizarre et compliqué de l'Union européenne et de la zone euro. Bon, c'est cette perception qu'il faut changer, et ça ne se changera pas avec des discours, ça se changera avec des actes.
Alors, une union monétaire, on l'a peut-être oublié. Pas tout le monde, bien entendu, mais ça veut dire des contraintes en termes de compétitivité. On voit bien aujourd'hui ce qui se passe dans le secteur automobile français. Il est en comparaison du secteur automobile allemand. Donc, soit on arrive effectivement à avoir des coûts qui sont moins élevés en France, par exemple, et vendre plus de voitures, peut-être dans le monde entier, mais la comparaison aujourd'hui, elle est bien là.
Je crois que c'est aussi une question de marché. Hein. Les segments sur lesquels les constructeurs allemands sont présents sont plus dynamiques au niveau international que ceux des constructeurs français. Ben, typiquement, les constructeurs allemands exportent des Audi, des Mercedes et des BMW en Chine depuis l'Allemagne. Les constructeurs français, ou d'ailleurs italiens ou espagnols, n'ont pas l'équivalent en termes de gamme. Donc ce n'est pas seulement une question de compétitivité prix, c'est plus généralement une question stratégique et de segment de marché. Maintenant, c'est clair qu'il y a aujourd'hui un sujet dans l'industrie automobile qui est devenu systémique. Moi, je souhaiterais qu'il soit traité à l'échelle européenne pour éviter autant que possible des distorsions de concurrence sur le marché européen. La Commission, malheureusement, se met un peu dans la posture de l'inaction. Là encore, le commissaire européen Tajani a dit c'est pas mon boulot de m'occuper du secteur automobile en Europe. Bon, je crois que, à l'évidence, faut pas rentrer dans un interventionnisme excessif, mais là, on a un problème systémique qui justifierait au moins une réflexion.
En conclusion, bon, on a cet environnement qui est quand même positif. Est-ce que pour les citoyens, l'Europe aujourd'hui, bon, clairement, c'est les difficultés. Est-ce que l'Europe va pouvoir retrouver, je dirais, ce qu'elle a eu il y a bien longtemps maintenant, c'est-à-dire cet espoir d'une union, effectivement, au-delà de l'union monétaire, finalement, ou des questions de base sur le fait qu'on était en paix, ça suffit pas aujourd'hui pour donner un travail.
Vous savez, c'est une question très compliquée parce qu'en même temps, les gens sont très attachés à l'euro. Je crois que les Français, comme les Italiens, comme les Espagnols, comme les Allemands, comme les Finlandais, vivraient la fin de l'euro et la dislocation de l'union monétaire comme une catastrophe nationale, et à juste titre. Donc on a cette relation extrêmement ambiguë dans laquelle L'opinion publique considère l'Europe comme le destin naturel de leur nation et en même temps avec un manque d'incarnation, un manque de représentation, un manque de confiance au point de vue des institutions. Donc je crois qu'on n'évitera pas la nécessité de réformer les institutions européennes pour renforcer leur fonction de représentation, avoir un système dans lequel le citoyen européen ou la citoyenne européenne peut plus facilement se reconnaître dans la décision qui est prise au niveau européen. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'organe principal de décision qui est le Conseil européen, qui est l'organisme non représentatif par excellence. Personne ne contrôle le Conseil européen démocratiquement à titre collectif. Chacun des membres du Conseil européen, évidemment, est contrôlé démocratiquement dans son État membre, mais collectivement, cette structure ne fait l'objet d'aucun contrôle démocratique. C'est évidemment pas satisfaisant. Le Parlement européen lui-même a besoin d'être réformé. Il n'est pas suffisamment représentatif. Il n'a pas suffisamment de pouvoir. Donc il y a tout ce chantier institutionnel qui est ce que Mme Merkel appelle l'union politique, sur lequel les Français sont très réticents parce qu'on a toutes ces réticences vis-à-vis du fédéralisme. Mais personnellement, je pense qu'on n'évitera pas ce débat et qu'on ne devrait pas l'éviter.
Voilà, on va encore beaucoup discuter en Europe. Merci à Nicolas Véran d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.